Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons Frédéric Jeck qui va nous parler de Aix-Marseille Université, qui va nous parler de ce que signifie penser en mathématiques.
Bon, tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Tim Gowers pour cette invitation qui me fait vraiment très plaisir. Et je voudrais en profiter pour dire que je trouve très important, dans un lieu aussi symbolique que le Collège de France, que tu aies décidé d'organiser un séminaire de philosophie des mathématiques, en affirmant par là que la philosophie est aussi ton affaire, en quelque sorte, qu'elle regarde aussi les mathématiciennes et les mathématiciens. Et donc, je vais en profiter pour commencer mon exposé en faisant un petit détour qui permettra, j'espère, de montrer ce qui me semble important ici et de montrer aussi comment ce que je vais discuter plus précisément tout à l'heure s'inscrit dans un projet plus large que je travaille depuis plusieurs années maintenant. Donc, vous allez voir que mon titre a une portée assez limitée par rapport à ce qu'on peut penser, parce que l'on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire penser? Est-ce qu'il va nous psychanalyser? Est-ce qu'on va dire comment pense chaque mathématicien? Ce n'est pas du tout le cas. C'est lié à un projet de philosophie très particulier que je vais essayer de vous montrer. Donc, pour commencer, donc, je dois dire que si les mathématiciens s'intéressent à la philosophie, en retour, il me semble que la philosophie pourrait avoir, si ce n'est le devoir, mais au moins le désir de se présenter à eux sous une forme qui ne leur est pas complètement étrangère ou inutile. D'abord, on est ici dans un séminaire de philosophie de la pratique des mathématiques, et derrière le mot pratique, il faut entendre une philosophie qui est informée par les mathématiques, prises dans leurs dimensions multiples, sociales, historiques, disciplinaires, les dimensions classiques. On peut discuter ici du mot pratique et en mesurer éventuellement les limitations, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Ici, je le prends en un sens simple, comme une injonction à maintenir une intimité forte avec les mathématiques. Mais, en fait, ça ne suffit pas, et je pense qu'il faut viser bien plus si l'on veut que la philosophie regarde les mathématiciennes et les mathématiciens en un sens effectif, c'est-à-dire sans que le philosophe ou le mathématicien ne soit obligé de sortir complètement de son domaine pour faire une incursion dans un domaine qui n'est pas le sien. On sait que les mathématiciens lisent de la philosophie, souvent avec une acuité réelle, mais on sait aussi qu'ils font de la musique, par exemple, et plein d'autres choses que nous enseigne la sociologie. Ici, ce à quoi je pense, c'est précisément comment une philosophie des mathématiques peut intervenir, comment elle peut faire œuvre dans le champ mathématique. Et il n'y a pas besoin de remonter aux Grecs, en fait, pour voir ce qui est en jeu. Et je vais vous donner, en fait, les conclusions d'un travail d'une historienne des mathématiques que vous connaissez tous, qui s'appelle Karine Chemla, et un regard qu'elle porte sur les mathématiques beaucoup plus récentes. Donc, je vous mets une citation. Donc, l'article n'est pas encore publié, hein, et il circule sous forme de préprint. Il s'intitule « Les fragments d'une histoire du concept d'idéal ». Et Karine Chemla montre comment, à la fin de la première moitié du XIXe siècle, Ernst Kummer réussit à réaliser une synthèse de notions distinctes d'idéal chez Poncelet et Schall. Elle établit précisément que Kummer s'appuie sur une synthèse des réflexions philosophiques qui sous-tendent l'élaboration d'une nouvelle géométrie par des géomètres comme justement Poncelet ou Schall ou d'autres d'ailleurs. Donc je lis la citation, le texte est en anglais, je vous l'ai mis en anglais, je vous le lis en français. En effet, leurs réflexions philosophiques ont contribué à façonner ce qui deviendra plus tard la géométrie projective. De plus, ce sont précisément ces réflexions qui ont été reprises de la géométrie dans la théorie des nombres complexes, contribuant à un changement majeur dans ce dernier contexte. Donc, je vous donne que de façon un peu abrupte la conclusion de Karine Chemla, là, qui travaille depuis longtemps sur cette notion de bénéfice conjoint de la philosophie, de l'histoire et des mathématiques. Donc, je m'en tiendrai, pour ma part, à dire qu'il me semble donc possible de développer une philosophie des mathématiques qui regarde aussi les mathématiciens dans leur travail mathématique. En d'autres termes, il s'agit ainsi ou aussi que la philosophie ait affaire avec les mathématiques, non pas comme un simple objet d'étude, mais en ayant quelque chose à dire, à partager de leur sens, de leur développement, quelque chose qui puisse influencer la façon même de faire des mathématiques. Alors ça, c'est un pari qui semble bien difficile, surtout au vu de comment les deux champs, la philosophie d'un côté et les mathématiques de l'autre, se développent, se donnent des objectifs de production toujours plus hauts et semblent avoir mis en place des critères d'efficacité qui sont difficiles à venir infléchir de l'extérieur. Mais il me semble que ce n'est quand même pas une entreprise qui est complètement impossible à deux conditions qui, pour le coup, me semblent complètement incontournables. La première, je pense d'abord qu'une philosophie qui se donne de telles ambitions doit repartir de quelque chose qui est à la fois au cœur des mathématiques et qui en même temps est immédiatement sur un plan que les mathématiciennes et les mathématiciens eux-mêmes vont reconnaître. J'ai choisi pour ça le verbe « penser » qui est dans mon titre, qui sera le point de départ d'un travail critique que je vais tenter d'exposer ici dans ces grandes lignes. On peut remarquer tout de suite que ce verbe, employé seul, renvoie immédiatement dans les coulisses le sujet pensant, celui du cogito qui est complètement embarqué dans le cogito, mais aussi l'objet de la pensée. Il ne s'agit pas de faire une philosophie sans sujet et sans objet, bien sûr, mais ils seront au moins au départ dans le fond, et gardés dans le fond, c'est-à-dire dans les coulisses pour un instant. Deuxième condition qui me semble incontournable, pour une philosophie qui se donnerait les objectifs que j'ai rappelés, c'est conserver une approche descriptive. Donc le descriptif, c'est ce qui permet bien sûr de conserver un contact intime avec les mathématiques, mais aussi bien plus en prenant en compte ce qui échappe à une vision trop systématique, en dévoilant des circulations, des ressemblances, des irréductibilités qui sont au cœur des mathématiques et dont la philosophie, à mon avis, doit se saisir. Les deux aspects pensée et descriptif, donc c'est un travail sur le penser mathématique et avoir une approche philosophique descriptive, sont complètement liés. Et là, je vais essayer de tenter de donner une idée claire de ce qui est en jeu, en commençant par le penser mathématique. Donc mon point de départ, donc ce penser mathématique, je le prends dans le sens où penser serait ce que fait une machine sans but, une machine qui fonctionne sans que soit prédéterminé ce qu'elle doit produire ou manipuler. Ce n'est pas une machine fermée du tout, qui fonctionnerait en vase clos, elle fonctionne plutôt comme un organe sans fonction, prête à recevoir tout ce dont elle peut s'accommoder, aussi inattendu que ça soit. La capacité à penser, c'est donc une capacité à produire et manipuler, une capacité machinique, sans qu'il soit nécessaire pour envisager cette capacité de concevoir dès le départ ce qui va être produit, bien sûr, ni ce qui va être manipulé, c'est-à-dire une chose ou éventuellement un objet dont nous ne savons encore rien. Le penser mathématique, vu comme point de départ de ce travail et pierre de touche d'où mener une critique, sera donc complètement désengagé de la notion d'objet de la pensée. Et désengagé ici ne veut pas dire, ne signifie pas qu'il n'y a pas d'objet en fait, et nous reviendrons sur une définition d'objet repensé. Il s'agit de ne pas lier le penser mathématique avec un objet donné a priori. Cependant, une conséquence à ce point de mon propos est que la notion même de pensée, vue comme activité d'une machine sans but, ne se laisse pas saisir de façon tout à fait ferme et se dégage dans une sorte d'idée dont on attend encore la teneur. Donc ce que je vais faire, c'est préciser ce que pensée veut dire, ou encore, quel est le fonctionnement de cette machine sans but, lorsque précisément elle agit en mathématiques, c'est-à-dire dans l'acte de pensée mathématique, ou encore quand on exerce sa force de pensée mathématique. Donc j'emploierai ces différentes expressions de façon à peu près synonyme. Je soutiens ici, d'un point de vue philosophique, qu'il existe deux modes de pensée en mathématiques, deux façons d'exercer sa force de pensée. D'une part, le mathématicien démontre, et en utilisant des règles, et ces règles sont conçues, à mon avis, en même temps que les objets qu'elles vont régir. L'objet va trouver ici son sens dans l'acte de démontrer, dans un rapport complexe avec la règle, et enfin dans une possibilité de manipuler des objets selon des règles. D'autre part, il y a un mode de pensée que j'appellerais progressif, dans lequel les choses sont plus enchevêtrées et plus complexes. Et mon approche critique a pour but de déterminer la nature de cette prise de position initiale, ce double mode de pensée en fait, et d'en tirer toutes les conséquences philosophiques. Alors pour commencer, il me faut donner un sens précis à l'expression « manipuler des objets selon des règles » qui va nous permettre de présenter une notion d'objet en fait, qui va être liée à cette façon de penser. Pour l'instant, je garde cette notion d'objet au fond, d'accord, et pas au centre de la scène. Donc, peut-être que j'ai une slide qui donne des... Voilà, quelques thèmes ici que je vais aborder les uns après les autres. Donc j'ai commencé par la règle et le jeu pour préciser un petit peu ce que je veux dire de cette pensée. Donc une des activités des mathématiciens consiste en la création de propositions qui sont vérifiables, c'est-à-dire dont on peut dire qu'elles sont conformes à l'emploi d'une certaine règle et en la vérification de cette conformité. J'appelle proposition ici, ou énoncé, un produit de la pensée mathématique qui peut s'exprimer parfois par écrit, dans des publications, mais aussi oralement ou de façon intériorisée. En fait, la forme importe peu, bien que le processus de vérification puisse prendre des aspects différents, Ça peut être par exemple le contrôle par des pairs, l'autocontrôle ou l'assurance spontanée que l'on pense selon une règle bien établie. Et dans ce cas, en quelque sorte, la règle va conformer l'énoncé. Ce n'est pas la seule forme d'activité intellectuelle du mathématicien qui pense aussi en dehors des règles, et je pourrais y revenir, vous avez sans doute en tête plein de façons de penser qui ne sont pas selon les règles. Donc dans un contexte adéquat, 2 plus 1 égale 3, et je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai pensé cette égalité conformément à une règle que j'ai respectée. On peut indiquer tout de suite que 2 n'est pas défini en tant qu'être par la portée de la règle, ni par son application. Il y a en effet quelque chose de 2 qui excède ce dont j'ai besoin pour savoir qu'il a bien été manipulé selon la règle. À ce point, je ne dis rien de plus sur 2 que le fait que je sais vérifier que son emploi est conforme à une règle. Réciproquement, et cette idée est en quelque sorte duale de la précédente, la portée de la règle ne peut pas être définie par les emplois variés que les mathématiciens auraient validés à travers une objectification de ce qui permet d'utiliser la règle. Vous pouvez, même en dehors des mathématiques, penser à ce que je suis en train de dire qui s'applique dans d'autres registres. Pour qu'il puisse y avoir en mathématiques une possibilité de produire des énoncés selon une règle et un processus de validation des énoncés, il me semble qu'il faut poser l'existence d'un premier mode de pensée, et il va être celui qui permet aux mathématiciens exactement de penser selon une règle et de valider la conformité des énoncés à cette règle. Ce processus de formation d'énoncés selon une règle et de vérification requiert une certaine objectivité. Et je vais appeler objet ce qui permet aux mathématiciens de vérifier qu'une règle a bien été suivie ou de concevoir des énoncés dans le cadre légal imposé par la règle. C'est donc, in fine, le principe de vérifiabilité qui définit notre notion d'objet ici. L'objet est ce qui est en jeu et qui est requis dans un processus de vérification, processus que l'on peut répéter, qui est fiable et qui peut être effectué éventuellement par un tiers. Donc il y a des remarques qui s'imposent pour éviter tout quiproquo ici. J'ai déjà évoqué, dire que la proposition qu'une proposition est conforme à une règle ne signifie pas que la règle n'a agi que ce qui a permis de valider son emploi, donc sur ce que j'ai dénommé objet. On va voir que la règle agit en dehors de son domaine de vérifiabilité. De plus, ce premier mode de pensée lié à la vérification de conformité de l'emploi d'une règle est un mode d'oubli, oubli de l'étendue des effets de la règle. Pour vérifier que 2 plus 1 égale 3, j'oublie ce qu'est 2. Je ne le prends que pour ce qui permet de vérifier la règle. Ce n'est pas ici une approche fictionnaliste, je ne fais pas comme si 2 était un objet, mais plutôt l'affirmation qu'on peut user de sa force de pensée en mathématiques d'une première façon qui permet de vérifier qu'une règle a bien été suivie. Cette force de pensée nous permet de saisir, dans ce qui est accessible à la pensée, quelque chose que l'on peut isoler suffisamment pour mener à bien la vérification. Ce quelque chose n'a pas de vie seule, n'est jamais détaché de tout fond, comme on va le voir plus tard. Il faut le penser un peu comme la surface d'un liquide visqueux, si vous voulez, sur lequel on peut dessiner des formes, sans pour autant douter que l'on agit bien plus en profondeur. Nous verrons qu'un deuxième mode de pensée permet de rendre compte de ce qui excède ce que j'appelle objet, c'est-à-dire qui excède ce qui a permis de vérifier le bon usage de la règle. Les objets sont donc ici ce que les mathématiciens peuvent manipuler selon des règles prédéterminées. Vous pouvez penser à des règles logico-déductives dans un sens large pour commencer. Je vais préciser un petit peu dans la suite ces règles, car elles ne se présentent pas toujours pour les mathématiciens dans des termes de la logique formelle. Selon le domaine des mathématiques, on trouvera des éléments qui ne sont pas régis par les mêmes lois logiques, ni par une axiomatisation unique et uniforme, et des règles qui se présentent sous d'autres formes qui seront en jeu. Cependant, localement, dans une pratique donnée, dans un domaine donné, dans une période historique donnée, dans un ethos mathématique donné, on pourrait dire, les mathématiciens savent ce qui leur permet de former des énoncés conformes à la règle, et ils manipulent ce que nous nommons des objets selon des règles. Il faut donc avant tout se demander ce que sont ces règles que les mathématiciens utilisent et ce qu'elles sont censées régir. Et dans un second temps, on pourra se demander comment agit une règle en dehors de la portée du pur droit qu'elle définit, en d'autres termes, et par complémentarité, qu'est-ce que la règle permet réellement de qualifier comme objet et qu'est-ce qu'il y a sous la surface en fait. Les objets tels que je les entends désormais comprennent, vous pourrez allonger la liste vous-même, les ensembles, les catégories, les éléments de l'arithmétique, les fonctions, les espaces de fonction de l'analyse, les objets géométriques, etc., tout ce que vous voulez, mais aussi ce que les mathématiciens appellent les structures, et donc entre autres, les groupes, les espaces, la topologie, etc. Donc une multitude d'éléments qui ont en commun de pouvoir être manipulés selon des règles ad hoc, en fait, auxquelles on est censé pouvoir se référer pour valider la manière dont ils ont été manipulés. Les nombres réels, les vecteurs d'un espace euclidien, les fonctions d'un espace L2 sont des objets ou ne sont des objets, finalement, que dans la mesure où les règles ou des règles permettent de les manipuler selon des axiomes d'un espace vectoriel, d'un espace topologique ou les deux, par exemple. Mais nous verrons aussi qu'ils sont bien plus que ce qui les rend manipulables selon une règle, conformément à elle. Il devient évident, en regardant la liste que j'ai donnée, qui est très partielle, hein, vous pouvez l'allonger par vous-même, qu'il y a bien plus derrière ces mots que leur réalité objectale. Et chacun d'eux peut à la fois très bien nous servir à vérifier un théorème, mais aussi à nous plonger dans une autre forme de pensée à laquelle je vais revenir. Mais d'abord, je vais préciser ce premier mode de pensée et son rapport étroit à la règle. Il me semble que les mathématiciens, dans leur manière de penser et de manipuler les objets, visent aussi un horizon indéterminé où de nouveaux objets, jusqu'alors inconnus, peuvent entrer en scène. Bien sûr, la règle va avec le jeu qu'elle permet de jouer. Dans une théorie donnée, dans un domaine donné par des règles, le mathématicien est face à un jeu qui peut être mené conformément à la règle. Les mathématiciens sont joueurs, et explorer un jeu dont on s'est donné les règles est une de leurs premières activités. Le but n'est pas d'explorer toutes les possibilités offertes par le jeu, mais de développer une habileté de jeu, d'en comprendre les stratégies, d'en comprendre la portée sans passer en revue toutes les parties que l'on pourrait jouer. Se joue alors parallèlement au jeu selon les règles mathématiques et parallèlement à l'activité d'en saisir le fonctionnement et la structure, des jeux de domination, des jeux de compétition, des manières de jouer à des fins non mathématiques et plein d'autres choses. Alors, je vais prolonger ce que je suis en train de dire en essayant de voir un peu quelle est l'étendue du jeu. Hein, donc dans deux directions, on a des règles du jeu, donc il y a une étendue du jeu possible, et il y a une portée légale de la règle et ce qui se passe en dehors de cette portée légale. En mathématiques, les règles de manipulation des objets se forgent en même temps que les nouveaux objets qui devront être manipulés selon ces règles, grâce à quelque chose qui ne leur est pas étranger dans un domaine qui tombe sous le coup de la règle, malgré elle, si l'on veut. En même temps que je délimite la notion d'objet dans la pratique mathématique, je dois préciser les règles qui l'accompagnent, et celles-ci sont grosso modo de deux ordres. Les premières sont des règles de la logique, dont la longue histoire montre qu'elles sont en constante évolution, non seulement dans le souci de trouver des bases solides pour la manipulation des objets, mais aussi pour s'adapter au mieux à la nécessité de manipuler de nouveaux candidats au statut d'objet. La structure de groupe, par exemple, exige que les éléments du groupe soient manipulés selon les lois des opérations qui définissent le groupe. Toute violation de ces règles serait inacceptable. Là encore, de nombreux travaux dans l'histoire des mathématiques montrent que ces types de structures et les règles qui en découlent sont créés en liaison avec les objets que l'on souhaite admettre sur la scène mathématique, objets dont l'existence est parfois souhaitée, une solution d'équation par exemple, un point fixe ou autre chose, existence que les mathématiciens chercheront à établir selon des règles fixées, en même temps que l'on saisit l'idée de l'être nouveau. Donc il y a une capacité à viser en quelque sorte un horizon objet qui prépare le terrain pour des objets qui n'existent pas encore. Voilà. Il y a plein d'exemples mathématiques que vous pouvez avoir en tête qui sont dans ce cadre-là. Alors, ce que j'ai appelé en fait ici un jeu, c'est précisément une possibilité d'exploration du côté des objets, une exploration soumise à des règles forgées en même temps que les objets. Alors, je vais prendre un petit exemple mathématique là, qui va illustrer un petit peu la co-construction de la règle et du jeu. Donc supposons que les concepts d'espace vectoriel et de base aient été établis, soumis à la fois aux lois de la logique, on peut dire par exemple dans une théorie de Zermelo-Frankel avec axiome de fondation, si vous voulez, et aux lois données par la structure de l'espace vectoriel. Accepter l'existence d'une base pour chaque espace vectoriel est dans la théorie des ensembles ZF avec l'axiome de fondation équivalent à admettre l'axiome du choix. Ainsi, si on veut jouer à un jeu où l'on a une base dans chaque espace vectoriel, ce qui est souvent le cas, hein. On aime bien avoir des bases quand même, on a besoin de quelque chose comme l'axiome du choix, la règle, qui a été façonnée précisément pour rendre ce type de jeu possible. Et on se retrouve dans ZFC finalement. Cette idée de règle de jeu qu'on construit permet d'explorer toute la richesse des situations rencontrées en mathématiques et de concevoir la notion d'objet de façon non limitée par une autonomie qu'ils n'ont pas. Alors, Si on veut explorer un tout petit peu plus ce qui se passe du point de vue du jeu selon les règles, on doit repenser la notion de structure, une notion qui est chère aux mathématiciens et chère aux philosophes des mathématiques aussi, et donc je vais repenser cette notion de structure. En manipulant des objets selon des lois prescrites, comme je viens de le décrire, on établit des liens entre différents objets, les structures mathématiques, espaces topologiques, groupes, topos, etc., sont une façon d'exprimer ces liens. Ces structures obéissent aux lois de la logique et peuvent être articulées dans une théorie mathématique établissant à nouveau des liens entre les éléments. La façon dont les mathématiciens utilisent des structures de diverses façons à des fins multiples a donné lieu à une vaste littérature philosophique qui a souvent pris le mot « structure » dans un sens donné par la pratique mathématique et l'emploi qu'en faisaient les mathématiciens eux-mêmes. Mais il existe des liens qui ne sont pas toujours formalisés en tant que tels par une trame logique ou une liste d'axiomes qui crée une structure au sens mathématique de base. Nous dirons donc encore qu'il y a structure s'il existe des liaisons entre les objets mathématiques dont le mathématicien se sert dans le processus de vérification qu'une règle a été suivie. Cette notion de structure couvre en particulier un certain nombre de situations qui ont été analysées par ailleurs en philosophie, mais qui n'ont pas toutes été identifiées comme des structures du fait que le lien dont on parle n'est pas en général formalisé littéralement dans les énoncés mathématiques. Pourtant, ces liaisons sont bien présentes et sont utilisées pour construire ou vérifier des énoncés. Elles appartiennent bien au domaine chosique dans l'optique que je propose. On peut considérer, par exemple, la relation entre un graphe et la construction d'un espace de Hilbert comme suit. Donc, on peut se donner un graphe, par exemple, celui que j'ai dessiné ici, un graphe extrêmement simple, plus simple que ce qu'on voit le matin dans le cours de... de combinatoire. Donc ce graphe permet de définir en fait des mots admissibles, W comme mot, hein, qui correspondent au chemin que l'on peut suivre en passant par les flèches. Donc si on regarde, si on ajoute les lettres à gauche, on peut voir que F, E, F, E, G, G, F est un mot. Je ne sais pas si je ne vous ai pas perdu dans le parcours des... Ces mots peuvent alors être utilisés pour indexer une base d'un espace de Hilbert. Et il y a donc un lien immédiat entre le graphe et l'espace, lien qui n'a pas besoin d'être précisé par d'autres mots. On dit que on indexe une base de Hilbert par les mots. De plus, la structure du graphe se reflète dans la structure de l'espace. Par exemple, les mots commençant par X, les mots qui ont un E à l'extrémité droite, l'extrémité gauche, ou par Y, qui commence par un F ou un G, donne lieu à une division naturelle de la base en deux parties, et l'espace est alors lui-même scindé en deux sous-espaces, comme on peut le voir si on regarde une représentation sous forme d'arbre, les mots admissibles, et donc la base de l'espace de Hilbert. Le lien entre le graphe et l'espace, c'est un lien qui est très profond et qui donne lieu à de nombreuses propriétés de l'espace, ou qui permet d'analyser de nombreuses propriétés de l'espace, et qui sont mieux décrites en termes de sommet et d'arête. Néanmoins, le mathématicien ne pense pas toujours en une correspondance biunivoque entre les mots de la base entre les mots et la base de vecteurs, ni entre le graphe et les mots admissibles. Il sait que ça fonctionne, et la nature du lien entre le graphe et l'espace est claire pour lui. Cette association et la construction de l'arbre restent vérifiables objectivement si besoin, et chacun peut contrôler si la construction est correcte, si je ne me suis pas trompé en disant mettant les lettres à droite ou à gauche, et si le graphe est bien associé à une base. Alors pour rendre compte, il se passe des choses là-dedans, ce graphe est issu de... il est utilisé partout, ce type de graphe et ce type d'arbre, bien sûr. On peut l'utiliser en théorie des opérateurs, et on peut voir agir des opérateurs visuellement sur les branches de l'arbre. C'est ce qui est intéressant, il y a un aspect visuel immédiat qui est utilisé, et c'est pour ça que dans ce cas-là, les mathématiciens choisissent ce type de représentation, parce que c'est un support de pensée très efficace. Et pour rendre compte des liens entre les objets, quelle que soit leur nature... Donc des liens faits dans le domaine de cette première forme de pensée de la vérifiabilité, je vais parler de structure-objet. C'est un concept qui dépasse largement la notion de structure algébrico-topologique donnée axiomatiquement et qui couvre des situations comme celle que j'ai illustrée avec mon graphe. Ces structures-objets reflètent une dynamique qui participe de la progression des mathématiques. D'une part, les nouveaux théorèmes, mais aussi les nouvelles structures au sens habituel, sont des connexions qui sont établies entre des objets selon des lois prescrites, et ils participent d'une première forme de progression des mathématiques. D'autre part, la progression se lie aussi dans de nouveaux liens plus subtils qui, comme nous l'avons illustré, associe des éléments qui ne sont pas connectés en termes de structure habituelle ou de liens formalisés par des axiomes, par exemple des constructions, des assemblages, des supports descriptifs comme les graphes, etc. Il n'y a pas un seul formalisme, et selon les cas, le mathématicien peut choisir un formalisme qui décrit mieux le type de progression qu'il met en place et les liens qui unissent diverses entités qu'il souhaite manipuler selon certaines règles. Le cas des graphes est assez frappant ici, et dans l'exemple qui précède, choisi donc dans les semi-groupés d'algébras, le graphe est représenté sous forme géométrique qui est propice à un raisonnement constructif et par récurrence. Comme on fait, divers morceaux de graphes simples représentent diverses situations d'espace et d'opérateurs qui ne peuvent pas être traités de façon uniforme et généralisée, et leur assemblage qui visuellement revient à recoller des morceaux de graphes permet de les combiner dans un résultat général qui est adapté à tout type de graphe. Tout type de graphe qu'on peut construire par recollement. Dans une autre situation, pour donner un autre exemple, on peut voir comment des graphes sont employés de façon différente par les mathématiciens. Je vais donner un exemple. En juillet 2019, les mathématiciens Dimitris Koukoulopoulos et James Ménard avaient annoncé qu'ils avaient réussi à prouver une conjecture formulée par Duffin et Schaeffer dès 1940. Le résultat publié en 2020 aux Annals of Mathematics s'énonce de la façon suivante. Donc je vous montre l'énoncé qui est finalement assez simple, qui va rappeler des choses à beaucoup de gens. Donc soit psi une fonction quelconque de n dans les réels positifs ou nuls, et qu'à l'ensemble de tous les nombres de 0, 1 pour lesquels on peut trouver une infinité de fractions irréductibles, qui s'écrivent ici a sur q, donc qui sont des rationnels, qui vérifient que alpha peut être approché avec un contrôle qui est psi de q sur q, alors k est de mesure de Lebesgue 1 si et seulement si on a la somme qui est dessous, qui est infinie, où phi est l'indicatrice de l'air. Donc vous pouvez avoir en tête des résultats similaires, plus simples que ce théorème très général. C'est un résultat qui s'exprime de façon très simple, qui est compréhensible vraiment de façon assez aisée quand on a un petit bagage mathématique. Et la preuve donnée par les auteurs va consister à nouveau à utiliser un graphe qui est appelé un graphe PGCD, dont on mesure la complexité qui sera à son tour reliée à la possibilité de résoudre le problème. Ces graphes permettent de comprendre les liens entre des nombres entiers en signalant par un arc le fait qu'ils possèdent des diviseurs premiers communs. Alors quand je dis arc, on s'imagine tout de suite une petite flèche dessinée sur le plan. Une stratégie consiste à augmenter petit à petit la structure du graphe en passant d'un graphe GN à un graphe GN plus 1 plus complexe, tout en conservant le fait que certaines informations importantes de GN restent contrôlées par GN plus 1. Là encore, comme le dit lui-même Koukoulopoulos, le graphe aide à visualiser les relations entre les différents dénominateurs. On relie deux dénominateurs par une ligne lorsqu'ils partagent un grand facteur. Il y a donc une vertu qui aide la visualisation d'une situation complexe. Mais cette visualisation s'appuie ici sur un graphe qui est donné sous une forme beaucoup plus technique et moins évidemment visuelle que dans le cas précédent. Les auteurs définissent ce qu'ils nomment un graphe PGCD, GCD graph, de la façon suivante. Donc je vous montre, on va pas le lire en entier, mais je vous montre, pardon, j'avais pas remarqué la, je vous l'ai lu, mais sans vous dire exactement quelle était la conclusion du théorème qui avait été démontré. Donc on a que k est de mesure 1 si et seulement si on a cette somme qui est infinie. Et donc je vous montre un petit peu la, juste parce qu'on peut la lire sans comprendre tout à fait ce qui est en jeu, mais on peut lire exactement comment est donné un graphe cette fois-ci. Donc vous avez un sextuplet. Donc on commence par avoir un sextuplet. J'ai remarqué un petit peu ce qu'étaient les différentes notions une par une, donc c'est en passant les lettres dans l'ordre, qui sont données exactement par les auteurs, en disant ce que signifient les choses. Il n'y a aucun dessin dans l'article. J'ai marqué entre crochets un petit peu ce qui est du vocabulaire pour aider à comprendre et à suivre l'énoncé complet. Donc il y a des choses qui sont à peu près évidentes parce que les lettres représentent ce qu'on attend, d'accord, avec des ensembles d'entiers, il manque une apostrophe ici strictement positive pour V et W qui vont être les sommets du graphe. Voilà, le E pour les arêtes, edges, et P un ensemble de nombres premiers, vous voyez qu'il y a un P là-dedans. Voilà. Les fonctions F et G, on a deux fonctions, etc. etc. Je ne vais pas tous passer en revue, ça se lit à tête reposée, mais on s'aperçoit quand même en voyant ça qu'il y a une façon de. un choix conceptuel des auteurs qui est tourné vers une sorte d'assemblage qui va permettre de couvrir de nombreuses situations, et bien qu'ils ne fassent pas de dessin de leur graphe, et préfèrent une description plus abstraite ou littérale. Il y a non seulement un graphe au sens classique du terme, je reviens peut-être sur les lettres juste avant, là, et un graphe au sens classique du terme qui permet de dire si de nombres sont reliés, mais il y a aussi une mesure qui permet d'évaluer la taille de l'ensemble E, et donc la richesse du graphe. Enfin, il y a aussi un ensemble de nombres premiers, P, qui va jouer comme un paramètre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en partant de P égale ensemble vide, faire varier ce paramètre et examiner ce qui se passe quand vous avez une chaîne P1 incluant P2, etc. Et le tout est ici délibérément intégré à la notion de graphe PGCD et constitue un assemblage qu'il est difficile de représenter de façon à être manipulé selon une règle si l'on s'en donne une représentation plus épurée qui cacherait les relations fortes que cherche à capturer cette notion de graphe. Donc, là, c'était deux exemples en fait, d'utilisation de graphes très différentes qui sont afin d'illustrer comment se déploie le jeu en fait, suivant des règles. Et maintenant, il me faut montrer un peu plus loin les conséquences de cette extension de la notion de structure dans le monde objectal et ce que cela implique au niveau des objets eux-mêmes tels que je les ai envisagés. Donc, j'ai défini, je vais peut-être revenir à mon plan. Hop. Et là, donc je vais essayer de parler de ce que j'appelle l'univocité des objets, là, parce que j'ai défini la notion d'objet dans un premier mode de pensée mathématique comme ce qui pourrait être manipulé selon les règles, et on peut montrer que ces règles étaient conçues, ces règles qui s'appliquent de façon différente, qui ont des formes différentes, peuvent être conçues en même temps, dans le même mouvement de pensée, si vous voulez, que les objets qui tombent sous le droit de la règle. Dans mon approche, les objets sont toujours soumis à deux modes de pensée. D'une part, ils peuvent être manipulés d'une manière détachée du sujet, selon certaines règles prescrites, et cela garantit la vérification inconditionnelle que les énoncés sont formés selon les règles, mais aussi la possibilité d'un échange entre pairs ou d'une génération à l'autre et le développement d'un corpus qu'on appelle les mathématiques. Ce schéma est conforme à la mise à distance de l'objet, mais on va voir plus loin que ce mode de pensée n'opère jamais seul et que, qu'en ce sens, l'objet ne peut être pleinement qualifié de détaché de tout fond, ce qu'on aimerait bien d'un objet. Donc, dans ma façon de voir les objets, ils ne sont jamais détachés de tout fond, on va voir comment. Même pris dans ces deux modes de pensée, et comme surface d'un liquide visqueux, pour reprendre l'image que j'ai donnée avant, il existe une univocité des objets du point de vue de la manipulation selon les règles. C'est en particulier ce qui rend possible la vérification des énoncés. Par exemple, si on manipule R, donc je dis R, c'est les nombres réels bien sûr, mais je ne dis pas plus que R, je le désigne par un son ou une lettre, ce sont les règles d'un espace vectoriel, alors R est indiscernable de R2, qui serait également manipulé comme espace vectoriel. Si j'ajoute la notion de dimension, par exemple, je change les règles en ajoutant quelque chose en dehors de la structure d'espace vectoriel, quelque chose qui ne peut pas être déduit de la simple manipulation des règles de l'espace vectoriel. Pour vérifier qu'un énoncé dans lequel R2 intervient seulement comme espace vectoriel, on ne doit faire intervenir que ce qui permet de vérifier la bonne utilisation des axiomes d'espace vectoriel, à l'exception de tout autre. Donc si l'univocité est une qualité inhérente à la possibilité de manipuler les objets mathématiques selon un mode de pensée spécifique, c'est-à-dire en suivant des règles, il apparaît d'emblée que quelque chose d'autre est en jeu qui interfère avec ce premier mode de pensée. Les discours mathématiques et les textes par lesquels nous avons accès aux mathématiques montrent que d'autres connexions sont en jeu, révélant un autre mode de pensée qui ne concerne plus les objets tels que je les ai identifiés jusqu'avant, mais plutôt ce que nous pouvons appeler un mode des choses. Ici, je pense que ce mode de pensée, différent du premier, est un mode de pensée qui est résolument et pleinement mathématique. Ce n'est pas un mode de philosophe qui vient ou de psychanalyste, hein. C'est un mode de pensée mathématique qui interagit constamment avec le mode de pensée des objets. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Il faut explorer ce qui apparaît en mathématiques comme un monde diffus, un monde de choses, si on veut le distinguer de la pensée précédente, associée aux objets et aux structures objets. L'univocité des éléments dont j'ai parlé rapidement dans le monde objectal n'est valable en fait que dans un monde de pensée mathématique particulier. Et les textes mathématiques regorgent de situations où cette univocité laisse place à des variations infinies. Pour prendre un exemple, les nombres réels ne sont pas seulement un espace vectoriel normé de dimension finie, ni seulement un corps totalement donné des deux quines complets, mais bien plus. Ils constituent une chose qui peut être explorée de façon progressive, de manière progressive. Et ce qui excède ce que nous avons qualifié d'objet n'est pas la conséquence d'un changement de règles, par exemple, qui aurait affecté un changement de point de vue ou de règles qui aurait affecté ce dont on parle vraiment. Dans un contexte où l'on sait sans ambiguïté que R est un corps totalement ordonné complet, quelque chose est embarqué qui ne sert pas à vérifier que l'on utilise bien R selon le droit prescrit par la règle, celle dictée par les mots exacts corps totalement ordonné complet, l'environnement qui est nécessaire pour que cette règle fasse sens. Ce qui excède le droit de la règle est appréhendé dans un mode de pensée particulier. Dans ce second monde de pensée, les choses ne sont pas clairement séparées les unes des autres et entretiennent pourtant des relations profondes que je vais appeler cette fois-ci liaisons, un peu comme en chimie. Donc je vais les distinguer, j'ai employé le mot structure dans une façon de voir les structures très élargie dans un premier mode de pensée. Et dans là je vais employer le mot liaison pour parler d'autres choses qui relient d'autres types d'idées. Je vais préciser un petit peu les choses. Par exemple, le concept de nombre réel n'est plus celui donné par la logique et les axiomes, c'est ce qui relève de la pensée quand on pense au nombre réel. Ce concept peut être manipulé dans une forme de langage toujours mathématique, qui n'est pas celui de la logique, mais plutôt un langage mathématique beaucoup plus polyvalent, celui du langage mathématique de tous les jours, et dont j'ai défendu par ailleurs qu'il était un langage poétique pour les raisons d'une contamination des deux modes de pensée. J'aurais peut-être le temps d'y revenir, mais ce n'est pas sûr. Dans cette façon de penser, la chose ne se conforme jamais totalement à un objet qui tomberait sous des règles, comme on l'a évoqué avant. Cependant, et c'est très important, les mêmes règles s'appliquent toujours, mais d'une manière beaucoup plus souple et étendue. Des aspects dépassant la règle sont introduits dans la manipulation des choses, et la notion d'univocité des objets que nous avons mis en avant cède la place à des éléments qui sont mêlés les uns aux autres. Pour reprendre un exemple dont j'ai déjà parlé, dans ce mode de pensée progressif, R en tant que corps n'existe pas complètement, puisque dans le monde des choses, R est infiniment plus qu'un corps. Il y a par exemple un ordre, mais aussi une multitude d'autres aspects qui lui sont indissociablement liés dans l'esprit d'un mathématicien et qui ne sont jamais tout à fait les mêmes. Ce que vous pensez les uns et les autres quand on dit R n'est pas la même chose. Je dis que c'est un mode de pensée progressif car il ne possède pas de capacité synoptique immédiate qui permettrait d'embrasser les choses dans leur intégralité. Seul un accès progressif est possible, un accès qui ne peut être donné que par une capacité d'exercer notre force de pensée d'une façon particulière. Alors, si on accorde qu'il y a ces deux façons de penser, je pense qu'elles agissent tout le temps en même temps et qu'il y a une contamination permanente de ces deux mondes de pensée et que cette contamination se lit dans les mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques telles qu'on les lit, telles qu'elles sont démontrées, véhiculent la contamination de ces deux modes de pensée. Donc, je vais essayer d'expliquer ça un petit peu. Donc, on va essayer de voir quelles sont les formes de d'une coexistence et quelles sont les conséquences de cette coexistence. Donc, les énoncés mathématiques habituels portent la trace d'une contamination réciproque des deux modes de pensée qui sont toujours à l'œuvre. J'ai insisté sur le fait que R était bien des choses pour un mathématicien. On pourrait m'objecter que l'on peut définir R d'une façon qui tenterait d'échapper à toute exploration autre que celle fixée par des règles, une pure émanation logique. On peut aussi penser à quelqu'un qui se forcerait à éliminer tout ce qui lui vient de penser qui n'est pas strictement nécessaire pour prouver que l'on a suivi correctement une règle. Mais alors, comment rendre compte de toute modification de règles qui serait autre chose qu'un pur jeu de position, de choix dénué de sens ? La possibilité de modifier la règle et le jeu mathématique nécessite de concevoir que la règle s'applique d'emblée à plus que ce qui est nécessaire pour établir son droit. Si l'on pense en termes de couple objet-structure d'une part et chose-liaison d'autre part, les objets étant donnés par ce qui est nécessaire pour la vérifiabilité et les choses le fruit d'une exploration plus progressive, il y a un va-et-vient entre les deux mondes. Du monde diffus des choses au monde des objets, il y a un détachement que l'on peut appeler abstraction, si vous voulez, qui opère non seulement des choses vers les objets, mais aussi des liaisons vers les structures. Et du monde des objets et de leurs structures, un mouvement donne naissance à de nouvelles liaisons et parfois à de nouveaux êtres dans le monde des choses. Par exemple, je prends un exemple à la fois simple et compliqué, l'infini qui peut être appréhendé grâce à une clarification axiomatique du côté des objets et des règles de la logique retombe dans le monde des choses, et du point de vue des choses, le concept d'infini est devenu beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, plus propice à l'exploration progressive qui est au cœur de la progression des mathématiques. De même, penser la notion de corps in abstracto modifie la façon de penser R dans le monde chosique, impacte la façon de penser les réels, par exemple. Alors, j'ai le temps de dire un petit peu quelles sont. J'essaie de parcourir un petit peu les conséquences de cette prise de position initiale sur ce double mode de pensée, dans différents registres qui sont importants en philosophie des mathématiques, sans avoir le temps, bien sûr, de rentrer dans les détails à fond pour pouvoir vous convaincre jusqu'au bout. Mais je vais essayer quand même de continuer avec des questions qui sont importantes, qui sont celles de progression, de permanence et unité des mathématiques. Alors, dans le contexte que j'ai essayé de décrire, là, le monde des choses et le monde des objets, pour le dire rapidement dans ces termes-là de monde, ne s'opposent pas. Ils se combinent dans le chevauchement et l'interaction de deux modes de pensée et donnent lieu à la progression des mathématiques dans toute leur richesse. Les règles. Alors, quand je dis la règle au singulier, hein, vous imaginez que ça peut être un assemblage de règles. Vous ne pensez pas que c'est qu'il y a une seule règle isolée. On n'isole pas les règles. Il y a ce dont on a besoin pour démontrer. Donc, les règles et les jeux, ainsi que les objets qu'ils permettent de manipuler, permettent de construire de nouvelles théories et d'obtenir de nouveaux résultats. L'exploration progressive des choses facilite l'inventivité, l'inspiration, mais toujours sous l'influence des règles et des jeux en vigueur dans toute pratique mathématique. Règles qui pourront à leur tour être adaptées ou modifiées. La relation intime entre les deux modes de pensée garantit la possibilité d'une progression des mathématiques qui s'explique d'un point de vue intrinsèque. Avec ces deux modes de pensée en tête, les mathématiques apparaissent comme un matériau indéfiniment déformable, extensible, mais aussi rétractable. Une matière qui n'est pas seulement faite d'objets, mais aussi de choses, et un passage permanent du statut de choses à celui d'objet et vice-versa. Cela permet de penser à une certaine forme d'unité, mais aussi de permanence, dans le cas où les résultats préalablement démontrés dans un contexte donné peuvent être plongés dans un nouveau contexte sans être bannis des mathématiques. S'ils ne sont pas à proprement parler manipulés comme des objets dans un nouveau contexte, nouvelles règles et nouveaux jeux, ils relèvent néanmoins d'une certaine pensée mathématique et peuvent en partie s'accommoder de nouvelles règles. Ou les nouvelles règles peuvent s'accommoder de quelque chose qui ne tombe pas sous leurs droits immédiatement. Si l'on considère les mathématiques comme un champ infiniment déformable et que la progression s'établit dans cette déformation, vue aussi comme un mouvement interne entre deux modes de pensée, on peut imaginer qu'un résultat traité à un moment comme un objet peut à son tour rejoindre le monde des choses dont il a été initialement arraché et participer à nouveau à un chantier d'élaboration d'une nouvelle théorie dans une progression répétition, si vous voulez. Alors, j'ai le temps de vous parler de ce thème qui me paraît important, qui est le quiproquo. Ça se permet de faire une petite pause, les choses qui sonnent. Merci. Donc, quiproquo. On se dit un quiproquo en mathématiques, c'est ce que les mathématiques souhaitent éviter, le quiproquo. Les mathématiques sont là pour éviter tout quiproquo et qu'on sache de quoi on parle. Et donc, je vais repartir sur cette notion de quiproquo dans ce double mode de pensée. Donc, si notre point de départ ici, dans ce texte, c'est le penser mathématique, il y a à la fois une entente des mathématiciens, celle liée à la vérifiabilité et à la règle, et à la fois un quiproquo permanent. Car si on peut bien poser sans contradiction et de façon à ce que les mathématiciens se reconnaissent dans cette idée qu'il y a effectivement deux modes de pensée qui correspondent à ce que nous avons décrit, il n'en reste pas moins qu'il y a une diversité notable de façon d'exercer son pouvoir de pensée. Et c'est par ce biais et par cette diversité qu'intervient le retour au sujet pensant, que j'ai laissé un temps hors de la scène ou dans le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dis qu'il y a quiproquo permanent, car face au tableau noir, quand deux mathématiciens réfléchissent à partir d'un problème bien identifié, leur façon de le penser est différente. La façon d'exercer sa capacité de penser, en particulier du côté progressif, est différente et chacun a une idée limitée de l'exploration qui est en train de mener son collègue, pourtant à partir des mêmes objets. C'est de ce quiproquo permanent, je crois que tu penses cet objet, mais en fait je ne sais pas quelle chose tu as en tête et comment tu l'explores. C'est de ce quiproquo permanent que naît la discussion, l'élaboration de nouvelles pistes de progression. Et on peut voir précisément ce que je pourrais entendre comme diversité du côté de la pensée progressive dans des exemples mathématiques que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais que vous pouvez avoir en tête. Vous imaginez chacun un domaine que vous connaissez bien et vous voyez comment il peut y avoir une diversité de pensées. Mais de façon simple, si on s'intéresse à un problème donné, chaque mathématicien et chaque mathématicienne va exercer son imagination de façon différente, embarquer avec les termes du problème diverses choses dans une dynamique de pensée progressive qui lui est propre. C'est ce qui se fait aussi, là je n'aurai probablement pas le temps d'en parler, ce qui à mon avis rend compte de la variation de style. C'est une variation de style qui a été beaucoup étudiée en philosophie. Vous pouvez avoir en tête Gilgason Granger par exemple sur la variation de style ou d'autres auteurs. Et donc je pense que ça rend compte de la variation de style. Bon, pour laisser de la place aux questions, je vais peut-être faire une petite synthèse conclusive. Donc finalement, pour revenir sur un point seulement et en guise de conclusion, quel est l'avantage que peut procurer cette façon de distinguer deux modes de pensée? Essentiellement, c'est une façon qui me semble efficace de concevoir la progression des mathématiques à travers la modification de la règle du jeu, c'est-à-dire en modifiant en fait sa méthode démonstrative. Je pense que c'est ça qui est en jeu. La distinction de deux modes de pensée permet de concevoir qu'une règle mathématique qui permet de valider la conformité des énoncés fait œuvre au-delà de son domaine légal, là où elle garantit la vérifiabilité. Elle agit sur un domaine que seule la notion de pensée progressive peut rendre compte. Sur un monde chosique, si vous voulez, si on reprend le vocabulaire que j'ai employé tout à l'heure, où des liaisons sont déjà à l'œuvre. C'est parce que la règle agit au-delà de son domaine légal et parce qu'une forme de pensée peut avoir accès à ce qui se passe au-delà de ce domaine légal que les mathématiciennes et les mathématiciens sont en mesure de modifier la règle et donc le jeu qui est attaché, le domaine légal si vous voulez, afin de progresser. La nouvelle règle permet de manipuler de nouveaux objets qui n'étaient pas jusque-là accessibles ou qui étaient accessibles seulement par la pensée progressive. Donc pas une invention complètement dénuée de tout sens qui serait un saut dans le soleil, hein, comme Heidegger. Donc c'est un saut par-dessus une ombre, mais qui reste maîtrisé. Et donc je crois que c'est cette façon nouvelle me semble convaincante pour rendre compte de la progression des mathématiques de façon totalement intrinsèque aux mathématiques. Et j'espère d'une façon où les mathématiciennes et les mathématiciens se reconnaîtront et reconnaîtront ce double mode de pensée. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.